Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode où on va parler de pas mal de petites choses. Rapide petit aperçu sur l'accident qui est arrivé, en fait la petite agression d'Arnold. Je sais plus ce que c'était, une compétition de corde à sauter en Afrique du Sud, où on voit quelqu'un qui lui saute sur le dos à pieds joints. Et on voit notre Arnold de 71 ans qui bouge à peine, qui tombe même pas, et qui dit dans un tweet qu'il pensait juste avoir été bousculé par la foule. On voit bien l'esprit du Terminator. Et ben, ce qui est intéressant, c'est que je pense que ce genre de choses, ça serait arrivé à l'Arnold classique. Le gars qui lui a fait ça, on le retrouvait pas. Avec tous les fans d'Arnold dans les parages, je pense que le gars, on le retrouvait pas. Bon, après, c'est un petit peu comme si quelqu'un s'attaquait au pape face à plein de chrétiens, etc. À l'Arnold classique, si on touche à Arnold, c'est un peu notre pape à nous. Et bon, ben voilà, après, je connais pas les raisons. Hein. C'est certainement que le gars avait des bonnes raisons de le faire pour lui. En tout cas, la vidéo a fait le tour, a fait le buzz. Et je voulais juste en parler parce que, en fait, je suis tombé dessus ce matin. Et je pense que si j'étais pas tombé dessus vraiment par pur hasard, je l'aurais pas su. Et ça n'apporte strictement rien de toute façon au podcast, mis à part de vous mettre un petit peu d'actualité, comment on appelle ça, putaclic, même si je me servirais même pas de ça pour faire le titre du podcast. Bref, je passe là-dessus. Et on va parler aujourd'hui ben, rapidement. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont suivi les précédents podcasts, donc ils m'envoient pas mal de questions par rapport à ma blessure que j'ai eue au pec. Donc je rappelle rapidement, petite élongation au pectoral droit. Et donc du coup, j'attaque la quatrième semaine post-blessure. Et je vous le dis concrètement, j'ai repris l'entraînement des pecs hier. Ça s'est très bien passé. Bon, j'ai une pratique, j'ai pas remis des grosses charges, j'ai pas fait de développé couché, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé tranquillement à étirer. Alors, je vois un kiné en parallèle, hein, donc le kiné me donne le feu vert ou pas, hein, par rapport à ce qu'il sent au toucher, etc., savoir si c'est bon ou pas. Donc j'ai repris, pas de souci, zéro douleur, mais vraiment, quand je dis zéro douleur, c'est aucune douleur durant l'entraînement. Par contre, les petites précautions que j'ai pris, c'est que j'ai entraîné quasiment sur tous les exercices où je faisais des poussées, donc j'ai fait un petit peu de pompe, un petit peu de presse à pec, tout ça c'était en prise serrée, les coudes plutôt le long du corps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait aussi de la poulie vis-à-vis, mais les mains, enfin comment on appelle ça, la poulie basse en fait, pour le haut de pec. Donc j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme exercice? Que je dise pas, et j'ai fait la poulie vis-à-vis classique aussi, parce qu'en fait le kiné m'avait dit faut que tu commences à étirer sous tension un petit peu là, tranquillement, sans mettre trop de charge. Donc j'ai pas mis au poulie vis-à-vis, je crois que je suis monté à 20 kilos ou quelque chose comme ça, enfin j'ai pas mis des gros poids. Pareil sur la presse à pec, j'étais à 70, donc je suis vraiment resté dans une zone de confort, pas de douleur. Donc là, quand j'enregistre le podcast, j'ai des débuts de courbatures, mais pas de courbatures sur la zone où je m'étais un petit peu blessé. Donc tout ça pour vous dire que 3 semaines après, alors au repos zéro douleur, à l'entraînement zéro douleur. Par contre, je fais pas le con, c'est-à-dire que je vais pas m'amuser à remettre tout de suite des grosses charges, etc. De toute façon, des grosses charges, je pense que de toute façon le développé couché est à risque pour moi, enfin c'est pas je pense, j'en suis convaincu. Donc il va y avoir une adaptation qui va être faite par rapport à ça, même s'il y en avait déjà eu une par le passé, là je vais renforcer les précautions et donc pouvoir. Et d'ailleurs, je tiens aussi à préciser, il y en a qui se posent des questions, est-ce qu'on perd du muscle ou pas quand ça arrive? Alors moi personnellement, j'ai pas perdu. Bon, après j'ai quelques années d'entraînement quand même, hein, ça fait 13 ans que je m'entraîne, donc j'ai pas en 3 semaines j'ai pas perdu de muscles. Et au contraire, j'ai eu l'impression d'ailleurs que cette récupération a fait qu'ils réagissaient très très bien à l'entraînement que j'ai fait hier. Je les ai sentis très réactifs, très bien connectés. Et donc, pas de problème. Alors, la seule chose, c'est que l'entraînement est perturbé, le premier, par la perception. C'est-à-dire que vu que c'était la première fois que je les réentraînais suite à la petite blessure, il y a un peu cette forme d'anxiété qui est, qu'est-ce que je vais sentir si j'amène mon bras ici, comment ça se passe, etc., et tel mouvement. Donc, il y a un petit peu cette... l'entraînement a été épuisant, du coup, parce qu'il y avait cette forte concentration pour pas me blesser, pour pas faire n'importe quoi. Donc, du coup, c'était un petit peu particulier, mais maintenant que je sais que ça va, je vais pouvoir peut-être réentraîner de manière un petit peu plus, comment dire, pas automatique, mais rassuré. Donc, ça va beaucoup mieux se passer au niveau de la séance. Donc voilà, donc vous avez les actualités. Trois semaines après, j'ai repris l'entraînement. Cette semaine-là, je suis dans la quatrième semaine. À la fin de la semaine, je vais faire le deuxième entraînement, qui sera plus ou moins similaire avec des poids un tout petit peu plus élevés. Et puis on va continuer comme ça pour se remettre au taquet. J'avais envie de parler aussi de ma méthode d'entraînement. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un podcast j'ai été interviewé par Phil, il s'appelle Phil, qui a un podcast, et on a parlé un petit peu de ma méthode de travail et tout ça, et il me faisait remarquer que mon point de vue, ma façon de faire, etc., avait évolué par rapport à mes débuts, qu'avant je m'entraînais hardcore, etc., et que maintenant j'étais plus dans le bon sens, etc., enfin je me rappelle plus de ces mots exactement. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est le message que je passe qui a changé, mais personnellement, mon entraînement n'a pas changé. C'est juste que j'ai l'impression de toujours me répéter si je dis que j'en fais beaucoup, qu'il faut aller au maximum, etc., etc., etc. Et forcément, j'essaie de pouvoir expliquer la muscu, parce que si je fais bien mon travail, mon but, en fait, c'est que vous ayez envie d'aller vous entraîner. Si je fais bien mon travail, vous allez avoir envie d'aller vous entraîner. Et donc, je suis obligé un petit peu de m'adapter à tout le monde. Quand je dis m'adapter à tout le monde, c'est pas essayer de plaire à tout le monde. Ça, c'est que j'en ai rien à foutre. Il y en a plein qui m'aiment pas et, enfin, moi, ça me dérange pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que, il y a des personnes avec qui il faut un certain dialogue pour communiquer et d'autres où on peut y aller brut de décoffrage, c'est-à-dire dire qu'il faut se mettre le compte, etc. Mais il y a d'autres personnes, si on leur sert ce discours directement, on va pas les motiver à faire du sport. Et c'est pas une question qu'elles m'aiment ou qu'elles m'aiment pas, ces personnes-là, je m'en fous. En fait, moi, le but, ce qui donne du sens à mon job, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui arrivent à s'y mettre, à l'entraînement, à faire attention à leur diète, etc., et qui ne lâchent pas. Et si je peux avoir un discours le plus large possible pour motiver le plus de personnes possible, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Donc, on va revenir à ma méthode d'entraînement, là. Est-ce qu'elle a évolué par rapport à mes débuts ? Alors, qu'est-ce qui a évolué ? Qu'est-ce qui n'a pas évolué ? Ce qui n'a pas évolué, c'est ma façon de voir l'entraînement. J'ai toujours baigné dans un univers quand j'ai démarré la muscu, où tout était plus ou moins figé. Il y avait une méthode pour prendre de la masse musculaire, il y avait une méthode pour perdre du gras, il y avait une méthode pour les naturels, il y avait une méthode pour ceux qui ne l'étaient pas. En fait, il y avait des méthodes pour tout. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que moi, j'ai horreur de rester figé dans une méthode d'entraînement. J'adore m'entraîner lourd, j'adore m'entraîner en série longue aussi. J'aime aussi m'entraîner avec des temps de repos très courts. Et finalement, il n'y avait pas réellement de cohérence entre toutes ces méthodes-là et quelque chose de figé. Et mes entraînements ont toujours été composés de sorte que je ne peux pas faire une séance de sport, de musculation, qu'elle soit très lourde ou plutôt légère en congestion brûlure, sans qu'elle soit intense. C'est-à-dire que si je vais m'entraîner lourd, donc lourd en 4, 6 répétitions par exemple, forcément j'aurai moins de séries, j'aurai plus de temps de repos et moins d'exercices. Mais à partir du moment où je vais m'entraîner en série de 12, 15, 20 répétitions, là j'aurai pas plus de séries, mais j'aurai plus d'exercices et un volume d'entraînement global sur la séance qui sera plus important. Dans les deux cas, je vais chercher une forme d'intensité. Et la forme d'intensité, quand c'est du lourd, on va plus être sur le système nerveux, donc plus, oui, plus taxant au niveau du système nerveux. Et l'autre, ça va être plus au niveau, on va dire, énergétique et peut-être même un peu cardiovasculaire si les séries sont assez longues et plutôt sur un tempo modéré à lent, quoi. Donc tout ça pour dire que ma méthode d'entraînement n'a pas changé. C'est-à-dire que quand je vais à la salle d'entraînement, j'ai toujours la même mentalité. En fait, le but, c'est... Je pense que tout le monde essaye de croire que... En fait, on est tout le monde dit ça marche pour toi, mais ça marchera pas pour les autres. Comme si on avait tous une méthode qui fonctionnait pour nous. Moi, je pense pas qu'on a tous une méthode qui fonctionne pour nous. Il y a une méthode, sauf que c'est pas quelque chose de précis. On a tous quelque chose qui fonctionne. Globalement, c'est de se dépasser, c'est d'être intense, c'est d'aller au bout. Et quelle que soit la méthode qu'on va utiliser, dans le sens où on va choisir plutôt du lourd, plutôt à la congestion, plutôt à la brûlure, plutôt le temps sous tension, etc. Là où tout le monde se rejoint, c'est cette forme d'intensité, d'effort, de travail. Et c'est vrai que quand je regarde, encore une fois, je me répète, mais quand je regarde autour de moi, quand je suis en salle de sport, et d'ailleurs je vais dans deux salles de sport différentes, donc je peux vraiment faire le contraste. Je vais dans une salle de sport où il y a vraiment énormément de un public très large. Donc là, je vois un petit peu les méthodes d'entraînement que ces personnes utilisent. On sent qu'il y a une forme de zone de confort. Il y en a qui poussent lourd, hein, je dis pas, mais globalement, on sent une forme de zone de confort. Donc c'est peut-être un choix, c'est peut-être voilà, mais forcément que cette méthode-là, moi je me dis toujours, si je m'entraîne comme la moyenne des gens, je vais ressembler à la moyenne des gens. Est-ce que j'ai envie de ressembler à la moyenne des gens? Moi, personnellement, non. Donc du coup, c'était une des choses que je m'étais dit au début, c'est qu'il fallait absolument que j'ai une méthode qui ne ressemble pas à la moyenne des gens, puisque la moyenne des gens ne m'inspire pas. Ça, c'était déjà mon premier constat. Et ensuite, pour en venir à l'autre salle de sport où je m'entraîne, là-bas, il y a quasiment, enfin, c'est pas quasiment, c'est il y a que des personnes qui veulent progresser et qui sont encadrées par des vrais coachs sportifs, etc., des athlètes, des haltérophiles, des triathlètes, etc. Donc là, je vois directement la différence. Les gens, quand ils vont dans cette salle de sport-là, déjà, je suis le seul à avoir mon téléphone parce que je suis le seul à me servir de mon chronomètre sur le téléphone. Il y en a qui me disent, mais t'es souvent sur ton téléphone. C'est pas ça, c'est que j'ai, en fait, j'utilise le chrono de mon téléphone. Donc oui, sur mon téléphone, il y a deux choses. Il y a l'application Note qui est ouverte avec plus ou moins la trame de mon programme que je note au fur et à mesure pour avoir un repère. Des fois, je la note juste avant de partir, etc. Et de l'autre côté, il y a mon chronomètre. Donc les deux fois où je serai sur mon téléphone, ça sera pour ça. Mais dans l'autre salle, je les vois jamais à utiliser leur téléphone parce qu'il y a un gros chronomètre au mur, ils utilisent ça et ça leur suffit largement. Moi, je sais, je suis habitué avec mon chrono sur le téléphone, c'est comme ça, on me changera pas. Mais après, par rapport à ma méthode d'entraînement, j'y reviens rapidement. Je ne peux pas j'ai jamais su me cloisonner dans quelque chose et y rester. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui le fassent parce qu'ils ont peut-être écrit à ce sujet-là, qu'ils ont certainement développé quelque chose tout autour d'une méthode d'entraînement. Moi personnellement, je sais que il y a pas réellement, enfin, sauf si on écrit quelque chose de très généraliste où on parle de toutes les façons de s'entraîner, mais je pourrais jamais me cloisonner dans une méthode parce que j'y crois pas et je ne le pratique pas. Je ne pratique pas qu'une seule méthode. Tous ceux qui sont abonnés à la zone VIP le savent. Les programmes qu'il y a sur la zone VIP, il y en a pas un qui ressemble à l'autre. Parce que justement, ce sont des programmes que je fais et que je partage avec vous pour vous montrer que on n'est pas obligé de rester figé, quoi. Après, ce qui va dicter un petit peu si je vais faire du travail plus en congestion, plus à la brûlure, plus en lourd, etc., ça va réellement être la forme que je vois dans le miroir, mais surtout la forme que je ressens au quotidien. Si je suis complètement sur les rotules, je vais pas m'amuser à faire des programmes hyper intenses en lourd, comme un peu les hard reset que je propose. Pourquoi? Parce que c'est une période où je nerveusement ça va pas forcément bien parce que j'ai mal récupéré ou j'ai une surcharge de travail ou quoi. C'est pas une bonne solution. Donc là, hop, plan B, je sors un autre programme, plutôt le programme haute fréquence que j'avais mis là avec beaucoup plus de volume de travail, mais avec des charges beaucoup plus modérées. Et là, je vais travailler plutôt sur un travail, on va dire un petit peu plus entre guillemets sportif, même si ça veut rien dire ce que je suis en train de dire, mais avec des temps de repos plus courts, avec des charges plus légères, mais sur des répétitions et enfin un volume de travail global qui sera plus important. Après, c'est ma méthode de travail. Il y en a qui aimeront pas du tout s'entraîner comme ça. Moi, je sais que c'est comme ça que j'arrive à me préparer pour faire un shooting photo. C'est comme ça que j'arrive à me préparer pour l'été. Enfin, après, comme je vous disais, moi, je suis toujours qu'à 4 semaines de la forme de shooting photo. C'est-à-dire qu'en 4 semaines, je peux être prêt pour un shooting photo. Donc, je monte jamais à un taux de gras trop haut. Donc, j'ai pas réellement besoin de faire des trucs. Je sais pas, un petit peu abusé pour me préparer. Voilà, bref. Donc, tout ça pour dire que ma méthode d'entraînement n'a pas changé. Mon discours change forcément pour essayer de faire comprendre au maximum de personnes comment fonctionne l'entraînement et comment fonctionne la nutrition. Je pourrais parler aussi de la nutrition, mais ça sera peut-être pour un prochain épisode. Si, d'ailleurs, pour faire la transition, nutrition... Il y a pas mal de personnes qui font des régimes comme moi, très pauvres en glucides. Alors, je le fais pas toute l'année, mais quand j'essaie un petit peu de nettoyer, comme je disais tout à l'heure, pour faire un shooting photo ou quoi, je vais réduire les glucides. Alors, il y en a beaucoup qui me disent cétogène. Non, c'est pas du vrai cétogène. C'est une diète qui est très basse en glucides, mais j'appellerai pas ça du cétogène pur, parce que cétogène pur, il y a quand même des besoins en lipides et des besoins en protéines qui ne correspondent pas forcément à la musculation, parce que les protéines vont être un petit peu plus élevées, les graisses peut-être un petit peu plus basses, mais en gros, c'est la même, c'est plutôt un schéma qui va y ressembler, c'est-à-dire qu'on va avoir des protéines et des graisses et très peu de glucides. Et justement, j'ai fait une recette de wrap qui sont sans glucides, enfin en tout cas qui pourraient rentrer dans une démarche cétogène, on va dire, et qui permettent d'avoir des collations dans le frigo assez rapides et de nourriture solide. Par exemple, pour après l'entraînement, pour le milieu de matinée, le milieu d'après-midi, etc. Ou alors, tout simplement, pour gonfler un petit peu l'apport calorique sur un repas quand on manque un petit peu de protéines. Et donc, du coup, j'ai carrément fait une grosse vidéo que j'ai partagée à tous les VIP sur le site, avec la recette, les ingrédients et tout. Et vous allez voir que le but de la recette, là, c'est vraiment de vous montrer qu'on peut cuisiner quelque chose de bon, qui va être relativement sain quand même, hein, bien que les produits utilisés soient pas du super bio et tout. Parce que je suis conscient qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas utiliser les produits bio. Quand on voit le prix, par exemple, du poisson bio, c'est à tomber par terre. Quand on voit... même, je vais vous dire, les boîtes de conserve bio, j'avais regardé la dernière fois dans le magasin où je vais, c'est 4 ou 5 euros la boîte de 100 grammes de thon ou de maquereau bio. Ouais, je veux dire, là, on est dans le ridicule, quoi. C'est vraiment abusé. Limite, là, à ce prix-là, presque mieux vaut à prendre le poisson frais, quoi. Et donc, du coup, pour les personnes qui consomment encore des boîtes, pas premier prix, mais on va dire des boîtes non bio de poisson, ça restera toujours mieux que de vous empiffrer de chips, de coca et je sais pas, de plats préparés. Donc, bien qu'il y ait du sel et que certains poissons sont quand même assez fournis en métaux lourds. Mais bon, bref, c'est pas le débat aujourd'hui. Ça restera toujours mieux que l'alimentation vraiment pourrie junk food. Et justement, ça permet d'avoir à petit budget quelque chose de sain. Donc, je m'arrête ici pour cet épisode. Si cette recette vous intéresse, vous avez le lien dans la description de ce... Enfin, c'est pas une vidéo, c'est un podcast. Donc, si vous voulez le lien de la vidéo de la recette, vous l'avez en description de ce podcast. Et je vous remercie pour toutes vos questions que vous m'envoyez en audio et en message, et aussi l'intérêt que vous portez à ma remise en forme après la blessure. Ça me touche beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Chaque semaine, retrouvez à 18h le dimanche la vidéo formation qui sort toujours avec une petite introduction sur YouTube pour que vous puissiez voir le sujet. Donc rendez-vous sur YouTube pour voir toutes les introductions. Ma chaîne, c'est Fitness Miss. Je les publie également sur Instagram TV, donc IGTV, donc vous cherchez aussi Fitness Miss. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les formations directement sur l'espace VIP à www.fitnessmiss.fr. Je vous mets tous les liens en description.